Cause à effet, le magazine de l'environnement.
Fermes et villes forment-elles un duo gagnant pour un avenir résilient et autosuffisant ? Entre les problématiques environnementales soulevées par le réchauffement climatique et les leçons tirées de la crise sanitaire, le modèle urbain semble obsolète et demanderait à être repensé. En février 2020, le ministère de la Ville avait annoncé un plan de 100 fermes urbaines dans le cadre d'un projet de ville résiliente, fertile et autosuffisante. Avec la pandémie de Covid-19, la question de la dépendance, notamment alimentaire, a été largement soulevée, laissant entendre qu'un autre maillage territorial pouvait être envisagé. Fermes urbaines, circuits courts, végétalisation et modèles alimentaires repensés, centres-villes actifs, villes et territoires doivent-ils se reconstruire pour assurer une résilience et une autosuffisance aux citoyens ? En a-t-on les moyens dans une économie mondialisée ? Quels en seraient alors les acteurs et les leviers principaux ? Dans le cadre de la coalition hashtag Sauver le présent qui rassemble 4 médias, France Culture, Le Parisien, Aujourd'hui en France, Ouzbek Erika et Combini News, nous interrogeons et analysons aujourd'hui la transformation de nos villes de demain avec nos deux invités en direct et par liaison technologique, Yuna Chifolo, ingénieure agronome et sociologue, directrice de recherche en sociologie économique à l'INRAE, l'Institut national de la recherche pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement. Elle est également co-animatrice du réseau national d'experts sur l'alimentation locale et auteure du livre « Les circuits courts alimentaires entre marché et innovation sociale », un livre paru chez ERES. Et avec nous également Benoît Leguet, directeur général d'ICAT, l'Institut de l'économie pour le climat. Il est membre également du Haut Conseil pour le climat. Bienvenue à tous dans notre émission en direct sur France Culture et en partenariat avec le service Planète Sciences du Monde, dont vous découvrirez tout à l'heure l'histoire de la semaine racontée par Rémi Barou. Et merci bien sûr à l'équipe à mes côtés, Anaï Morales, avec Anne Gouzon, Valérie Ernoul, Caroline Chausset, Vanessa Chang. Émission réalisée par Peyré Legras, avec à la technique aujourd'hui, Élise Le. Fermes et villes forment-elles un duo gagnant ? C'est le sujet du jour.
À Albi, il y a 5 ans, on voyait les choses en grand. La ville de 52 000 habitants visait l'autonomie alimentaire, autrement dit, consommer exclusivement des produits locaux. À l'époque, 3 maraîchers s'étaient installés. Aujourd'hui, il n'en reste plus qu'un, Jean-Gabriel Pélissou. Selon lui, la mairie n'a pas su encourager les agriculteurs locaux.
Il y a des choses qui sont dites qui ne sont pas faites ou qui changent régulièrement.
Quoi, par exemple ?
Ils ont acheté une maison qui était destinée normalement pour les maraîchers qui s'installaient ici. Et du coup, elle est restée abandonnée pendant presque 2 ans.
Sur le marché qui attend toujours ses producteurs albigeois, les habitants sont amers.
Vous êtes déçus par...
Complètement déçus, oui. Oui, parce qu'il n'y a pas eu de résultat, parce que c'était juste un faire-valoir.
Non, c'est sûr qu'en 2020, Albi sera autonome alimentaire, ça c'est sûr.
Il faut avouer que c'est très compliqué. Mais je ne perds pas espoir et je pense qu'à Albi, on pourrait y arriver.
L'adjoint au maire à l'origine du projet se justifie. La ville a eu du mal à acheter assez de parcelles de terrain, les maraîchers étaient mal formés. Mais selon lui, l'objectif autonomie alimentaire reste inchangé.
Dans la réalité, il va falloir du temps. Il va falloir du temps pour transformer cela.
C'est-à-dire ?
C'est-à-dire, il faudra laisser aux équipes une dizaine d'années pour y arriver.
Mais l'autosuffisance alimentaire est-elle possible ? Selon plusieurs associations, les 70 hectares prévus par la ville d'Albi sont loin du compte. Pour nourrir ses habitants, il faudrait y consacrer environ 13 000 hectares de terre et embaucher 900 agriculteurs.
C'était un extrait d'un reportage diffusé sur France 2 le 7 janvier dernier. Des villes de différentes tailles se sont engagées depuis quelque temps dans une politique de résilience et de recherche d'une certaine autosuffisance, autonomie alimentaire. Mais le chemin ne semble pas toujours aisé. Yuna Chifolo, la tendance existe depuis combien de temps et quelles sont peut-être les villes qui avancent efficacement sur ce terrain ?
Bonjour. Donc, en effet, cette idée d'autosuffisance, alors, elle trotte un peu dans certaines têtes depuis pas mal d'années, mais ce qui se joue pas mal, c'est depuis certaines grandes villes on se sont inscrites par exemple dans le pacte de Milan signé en 2015. C'est un pacte à l'échelle internationale. Des grandes villes ont décidé d'agir localement pour soutenir des systèmes alimentaires plus durables, et ça passe par une relocalisation. Mais on a aussi des plus récemment donc des questions autour de la sécurité alimentaire avec aussi des inquiétudes face à l'Amérique qui ferme un certain nombre de frontières avec une forme de repli sur soi. On s'est rendu compte que l'alimentation était aussi une variable stratégique et certains territoires pensent davantage aujourd'hui à assurer leur sécurité alimentaire.
Mais concrètement, est-ce qu'on peut évaluer notre dépendance actuelle au marché lointain, dirons-nous, en ce domaine de l'alimentaire ?
Alors, c'est un peu le paradoxe parce que la France est un grand pays agricole, mais en même temps très dépendant de marchés lointains, puisque notamment les importations ont été multipliées par deux hein, depuis 2000 par exemple. Alors bien sûr, parfois, enfin pour le thé, le café, on n'a pas le choix au sens où ça pousse pas chez nous, mais c'est aussi le résultat d'un choix de consommer des tomates en hiver, qui évidemment viennent de l'étranger. C'est aussi que alors qu'on produit beaucoup de viande ou de céréales, on en exporte et on en importe des moins chères pour mettre dans les industries agroalimentaires ou dans les cantines avec du poulet notamment qui vient des pays de l'Est parce que les matières premières sont dans du commerce international et on est sur une logique de prix et de coûts. Et puis c'est aussi on a un déficit structurel également sur certains produits comme les fruits et légumes. Pourquoi ? Parce qu'on perd des terres. On a perdu l'équivalent de la région Grand Est en terre depuis 1960. C'est aussi que quand une ferme sert son activité, elle part à l'agrandissement d'une exploitation qui va plutôt exporter qu'alimenter les territoires qui l'entourent. Et puis on perd des agriculteurs. À peu près 70 000 entre 2008 et 2018. Et ça, c'est une tendance qui s'installe. Et donc ce déficit sur certains produits et dans certains territoires, il est structurant et il risque de s'accentuer.
Benoît Leguet, bonjour.
Bonjour.
La crise de Covid-19 nous amène encore plus à repenser justement ces territoires et à penser en termes de résilience. On entendait à l'instant Yuna Chifoulo qui nous expliquait notre dépendance. Hein, et dans cette dépendance, d'ailleurs, on pourrait rajouter le fait que l'alimentation des animaux aussi que nous consommons vient en majorité d'Amérique du Sud.
Oui, tout à fait. Alors la crise sanitaire nous a montré en fait la fragilité de nos économies. Puisqu'on s'est rendu compte, peut-être de façon un petit peu abrupte, qu'on était extrêmement dépendant de tout un tas de choses qu'on ne voyait pas forcément. Quand vous allez faire vos courses dans un supermarché ou sur un marché, vous ne voyez pas tout ce qui se passe derrière. Et pourtant, il y a toute une chaîne logistique qui permet finalement d'apporter des denrées alimentaires et de remplir votre frigo. Et ça, en fait, on l'a un petit peu oublié. On s'en est rendu compte, vous vous souvenez des appels du gouvernement pour finalement fournir des bras pour le monde agricole. Une fois que les denrées sont produites, il faut quand même les récolter, il faut ensuite les amener sur des lieux de transformation, donc on a besoin de logistique et puis de la transformation au circuit de distribution. Donc pour tout ça, finalement, on s'est rendu compte qu'on avait une fragilité finalement assez inquiétante dans la mesure où, comme le rappelait Yuna, en fait, l'alimentation, c'est quelque chose d'assez essentiel. On peut très bien vivre avec en se passant de plein de choses. L'alimentation, ça fait quand même partie des choses, qu'on le veuille ou non, sur lesquelles on peut pas trop négocier. Au bout d'un moment, il faut bien que les gens mangent pour éviter, j'allais dire, des mouvements sociaux, des révolutions ou autre chose de ce genre.
Mais penser résilience, Benoît Leguet, c'est pas forcément aller jusqu'à la notion d'autarcie.
Alors effectivement, c'est vrai que quand on pense résilience, on se dit soyons un petit peu plus autarciques, essayons de rapprocher les lieux de production de chez nous, ce qui permet de diminuer les besoins en transport. Néanmoins, il faut faire attention à ne pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Alors c'est vrai que si on diminue les besoins en transport, on va augmenter la résilience. D'un autre côté, être complètement autarcique peut également nous amener à des situations risquées. Pour parler du changement climatique, qui est mon sujet plus d'expertise, si jamais vous avez des dégâts climatiques dans une région donnée, vous êtes bien quand même content, à un moment, de pouvoir avoir des sources d'approvisionnement relativement diversifiées afin de pouvoir continuer à nourrir votre population dans des conditions à peu près acceptables. Donc, il faut faire attention à ne pas passer d'un extrême à l'autre, d'une économie, j'allais dire, hyper mondialisée avec des denrées alimentaires qui font des kilomètres dont on peut parfois questionner l'utilité, à quelque chose d'au contraire extrêmement autarcique qui pourrait nous conduire également dans une situation de fragilité. Donc en fait, il faut peut-être repenser notre système alimentaire et plus largement l'ensemble de notre économie au prisme de la résilience. On pense évidemment à l'agroalimentaire en premier parce qu'encore une fois, c'est assez bas dans la pyramide de Maslow, enfin dans les besoins fondamentaux de l'être humain, la nourriture arrive assez bas. on peut se passer de plein d'autres choses à court terme, peut-être un petit peu moins à plus long terme. Donc c'est vraiment la résilience de l'ensemble de nos économies qu'il faut repenser. Et la crise sanitaire, s'il y a une chose positive de cette crise, c'est justement que ça nous invite à repenser cette résilience, disons les risques auxquels sont confrontées nos sociétés et comment on peut améliorer la résilience.
Alors, on a vu pendant la période de confinement, Yonashi Folo, un foisonnement d'initiatives lancées pour rapprocher les producteurs et les consommateurs. Est-ce que c'est là le signe d'une demande ponctuelle qui répond à l'urgence du moment, ou bien ce sont des actes qui pourraient perdurer et que vous analysez vous-même autrement?
Alors, ça reste évidemment une question ouverte, et là, justement, dans cette étape de déconfinement, on est très très attentif à ce qui va se passer, puisque, en effet, on avait lancé une grande enquête, alors avec un collectif de chercheurs, d'acteurs du développement et d'associations, dès le 15 mars, en fait, au moment à l'annonce du confinement, pour voir justement, pour recueillir les témoignages, sur la façon dont cette crise allait impacter les systèmes alimentaires, alors les producteurs, les consommateurs, mais aussi tous ceux qui font les chaînes alimentaires. Et on a vu en effet un foisonnement d'initiatives pour rapprocher producteurs et consommateurs face à une demande de produits locaux. Alors, au moins pour trois raisons. Pour des consommateurs qui voulaient se rassurer en achetant local, parce que on avait vu ça déjà au moment de la crise de la vache folle, à cette idée que quand on achète directement, on connaît le produit, on sait qui l'a produit. Et puis là, en plus, avec le risque de contamination, donc les produits, quand on serait moins manipulés, parce qu'ils auraient moins voyagé. Il y a aussi un mouvement de soutien fort vis-à-vis des producteurs français, mais aussi locaux du territoire, et puis la volonté de s'approvisionner en produits frais. Aussi parce qu'on avait du temps pour cuisiner, et donc l'intérêt de consommer ces produits.
Donc finalement, quelles sont les différentes formes de circuits courts qui ont été mis en place?
Alors, c'était des circuits qui existaient déjà, mais qui étaient un peu émergents, et que la crise a vraiment accéléré leur développement. Ce sont les drives fermiers, par exemple, donc des lieux où on peut retirer des points retrait, on peut retirer en voiture ou même à pied des produits plutôt de producteurs. Hein, ce sont des drives fermiers, des drives paysans qui ont été mis en place dans les villes ou en périphérie des villes. C'est aussi beaucoup de groupements d'achats informels qui se sont créés entre consommateurs, entre voisins, qui se sont contactés par SMS en mettant des petits mots dans l'ascenseur de l'immeuble, qui sont regroupés pour commander à des producteurs qui connaissaient, qui fréquentaient, que l'un en tout cas d'entre eux pouvait fréquenter sur les marchés, pour commander donc à ce producteur qui a livré en ville à ces groupements des produits frais. Donc ça, c'était des choses qui étaient vraiment en émergence, et surtout vraiment ces groupements d'achat peu ou pas visibles, et là avec un grand mouvement informel dans les quartiers, dans les villages, qui a entraîné des nouveaux clients, des gens qui consommaient pas ou peu dans ces circuits, qui a permis à beaucoup qui réfléchissaient de passer le cap, en disant ils avaient envie de consommer autrement, mais les circuits courts étaient pas forcément ni visibles, ni pratiques, ou on s'était pas donné le temps d'y réfléchir. Là, on a du temps, là, il y a plein d'inventions, plein de choses qui les rendent pratiques et visibles, et ça a donc entraîné des nouveaux clients vers ces circuits.
Mais alors, s'il faut repenser ces relations entre les territoires et les maillons de production pour un avenir aussi résilient, Yonashi Folo, concrètement, en matière d'alimentation, comment est-ce qu'on on doit procéder idéalement?
Alors, il y a évidemment... Il y a encore plein de choses à faire, au sens où la crise, elle a permis de rendre visibles des choses qu'on voyait pas et qui restaient quand même beaucoup marginalisées, décrédibilisées pour beaucoup de professionnels encore, et même beaucoup pour beaucoup d'acteurs publics. Les circuits courts, c'est quand même une forme du passé, c'est quand même une forme qui manque de professionnalisme. Au contraire, là, justement, ça a montré toute autre image qui est en train d'être partagée. Mais pour autant, il faut reconnecter, et les circuits courts, c'est de la vente directe, mais aussi de la vente avec des intermédiaires avec lesquels aussi les producteurs ont perdu des liens. C'est les restaurants, c'est les artisans, les bouchers, les boulangers. On a un mouvement chez eux aussi, certains vont s'affranchir des grandes marques et essayer justement de se réapprovisionner localement. Mais il y a un certain nombre de freins, il y a des liens qui manquent, qui n'ont pas été construits. Il y a des formations qui ne les préparent pas à ça non plus. Il y a une réglementation qui n'est pas toujours adaptée. On manque d'abattoirs locaux, on manque d'équipements locaux. Parce qu'il y a eu un investissement fort de la part des acteurs publics et des professionnels pour une agriculture productive, exportatrice, et un déficit de recherche, d'organisation, sur toute l'économie locale qui est attendue aujourd'hui et qui pourra pas justement, là on se demande justement est-ce que ça va durer, mais encore faut-il qu'elle soit soutenue. Et donc là, il y a un accompagnement à mettre en place aussi pour que ces initiatives puissent s'inscrire durablement dans les territoires et le quotidien des Français.
Benoît Leguet, sur cette question-là, vous, quel est votre regard? Parce que vous êtes un petit peu en surplomb, j'ai envie de dire, c'est-à-dire que vous embrassez toutes les problématiques aussi, hein, liées non seulement à la transformation des circuits alimentaires, mais bien au-delà, c'est-à-dire liées à la transformation de nos vies et de nos villes et de nos territoires par rapport à la problématique du réchauffement climatique. Reconnecter les territoires, est-ce que ça doit passer par l'installation d'agriculteurs dans les zones de proximité autour des villes? Est-ce qu'il y a d'autres leviers peut-être à activer?
Alors, même plus fondamentalement que ça, alors je vais peut-être faire un long détour, peut-être prendre un peu plus de. Une position peut-être un peu plus surplombante et puis vous ramener ensuite vers les villes. Comme vous le savez, la France a pris un engagement qui est d'être neutre en carbone à horizon 2050. Donc ça, c'est très bien, ça fait très bien sur le papier, c'est la contribution à l'accord de Paris. Et en fait, quand vous regardez pour faire vraiment à très très grosse maille, ce que ça veut dire qu'il va falloir réduire les émissions de gaz à effet de serre de façon extrêmement importante, c'est-à-dire les réduire d'un facteur 6 à 8 à horizon 2050, c'est-à-dire les ramener quasiment à zéro pour faire très simple, et puis il va falloir séquestrer du carbone. Or, ce qui permet de séquestrer du carbone, si je laisse de côté les solutions peut-être un petit peu plus techno, entre guillemets, que peuvent être la séquestration géologique du carbone ou autre, c'est la séquestration biologique, c'est finalement la photosynthèse qui permet de séquestrer du carbone dans la biomasse, mais également dans les sols. Et donc cette séquestration biologique, pour faire très simple, c'est la forêt et l'agriculture. Donc si vous voulez avoir une France neutre en carbone à horizon 2050, en regardant ça de très loin, ça veut dire qu'il va y avoir des zones qui vont continuer à émettre, même si elles vont réduire très très fortement leurs émissions de gaz à effet de serre. Et ça va être plutôt les villes. Donc il va falloir réduire par tout un tas de moyens, en jouant sur la mobilité, le logement, etc. Et puis il va y avoir des territoires qui, encore une fois, mathématiquement, si on veut atteindre la neutralité carbone, vont devoir absorber du carbone. Et ça, très schématiquement, ça va plutôt être les campagnes. Tout simplement parce que c'est là qu'il y a des activités forestières et agricoles. Et donc si on veut avoir une France neutre en carbone, il va falloir à un moment inventer des nouvelles relations entre territoires plutôt urbains et territoires plutôt agricoles, pour faire simple, afin de contractualiser, j'emploie peut-être un terme un peu générique, mais de contractualiser finalement comment on arrive à la neutralité carbone ensemble. Donc ça va peut-être ajouter des relations entre les territoires qui vont venir s'ajouter aux relations qui existent déjà. Les villes et les campagnes interagissent déjà beaucoup. L'alimentation, c'est une de ces interactions, parce que j'ai bien entendu donc la mention des 100 fermes urbaines, mais aujourd'hui c'est quand même pas ça qui nourrit les villes. Et demain, je ne sais pas, mais Yuna aura peut-être un avis beaucoup plus informé dessus que moi, je ne sais pas dans quelle mesure ces fermes urbaines vont pouvoir contribuer à nourrir les villes, certainement à la marge, mais je ne suis pas certain que ça va faire le gros. Donc quelque part, il va falloir réinventer ces relations entre territoires, et le climat va venir rajouter une petite couche de complexité dans tout ça.
Yuna Chifolo, justement, pour reprendre la question de Benoît Leguet, est-ce que les fermes urbaines peuvent nourrir les villes?
Je souscris à ce qui vient d'être dit. Non, parce que, enfin, non, et tant mieux à la limite, parce que si vraiment on avait cet objectif-là, on serait prêt à inventer des fermes verticales très très hautes dans lesquelles on produirait massivement avec des technologies très avancées, très poussées. C'est pas ça l'enjeu. Alors même si dans certains pays du Sud, cette agriculture urbaine, notamment, elle peut avoir quand même un rôle. Enfin, en tout cas, elle peut avoir un rôle dans l'alimentation, en particulier des populations vulnérables ou dans certaines villes un peu sinistrées. On l'a vu avec des jardins quand même. Mais l'enjeu, il est surtout pédagogique. Il est surtout de permettre cette reconnexion à la nature, cette reconnexion finalement à ce qu'il y a derrière les aliments. Et c'est plutôt de cette façon-là que ça se développe en Europe. Et l'idée, c'est vraiment là en effet de relocaliser ce qu'on peut, mais aussi de retisser, de reconstruire des liens de partenariat, et non plus de dépendance subie, mais de partenariat assumé, choisi, en reprenant la main sur les flux qu'on connaît pas très bien finalement. C'est pas bien dans une ville. On avait fait ce travail-là, nous, à l'échelle de Montpellier par exemple, parce que finalement on sait pas bien exactement d'où vient l'alimentation qu'on consomme. Ça veut dire qu'on a perdu complètement le contrôle. Les données, elles sont plutôt captées par le privé et elles sont pas publiques. Et donc c'est reprendre la main sur ces flux, les réorganiser, organiser les complémentarités avec des territoires plus éloignés. Paris avait cet enjeu. J'avais discuté justement avec des gens de la ville de Paris, avec cette idée de s'allier à la Creuse, qui produit beaucoup plus de vaches qu'elle n'a d'habitants, pour justement être moins dépendant des flux internationaux. Donc c'est cette idée, mais en tout cas en respectant la nature et en évitant justement une agriculture trop technologique qui couperait davantage le lien avec l'environnement.
Et la ville de Paris, vous avez répondu favorablement à l'idée émise par rapport à la Creuse?
Alors ça venait d'élus de la ville de Paris, alors montrant justement la ville de Paris est dans ce pacte de Milan, mais il y a aussi des réflexions comme ça un peu en ce sens dans ce qui s'appelle les projets alimentaires territoriaux. Alors avec votre reportage l'a bien mis au début, avec parfois plus de communication que d'action, puisque Albi est aussi une des villes engagées dans ces projets qui visent à relocaliser, reconnecter, réorganiser l'agriculture et l'alimentation de proximité. Mais il y a aussi des actions concrètes, il y a en tout cas des réflexions. Et la crise a permis aussi à certains, justement, de se dire que maintenant, il faut agir, quoi. Il faut agir.
Alors, quels bénéfices et vertus du système Younachi Folo? On a parlé de la réduction des gaz à effet de serre. Vous disiez, au-delà de cette reconnexion entre territoires, il y a aussi moyen peut-être de dynamiser l'emploi, de créer du lien social.
Mais derrière les circuits courts, alors au sens large, circuits courts, et puis surtout de proximité, c'est-à-dire que les circuits courts, la définition officielle en France, il y a un intermédiaire maximum, sans notion de distance. Ce qui a quand même un peu, enfin, ce qui a des impacts, c'est aussi quand il y a de la proximité géographique entre producteurs et consommateurs, même avec des, y compris avec des intermédiaires. J'en parlais, les artisans, les bouchers, les boulangers, tous ceux qui aussi ont un rôle dans l'économie locale et dans la vie des territoires. Et derrière ça, en tout cas, il y a quand même beaucoup de, autant sur la dimension environnementale, ça débat beaucoup, la relocalisation, même si je pense qu'on compte pas bien encore les gaz à effet de serre produits par cette alimentation, parce que c'est des systèmes complexes, parce qu'on compte qu'un bout. Les transports, c'est quand même pas beaucoup dans la production de gaz à effet de serre par rapport à l'alimentation, c'est plutôt les modes de production qui impactent. Or ça c'est intéressant parce que les circuits courts, globalement quand même, entraînent l'écologisation de l'agriculture. Pourquoi? Parce que il y a la pression du consommateur, parce qu'il y a plus de dialogue entre des producteurs, ceux qui sont plus avancés vis-à-vis de l'environnement avec ceux qui le sont un peu moins. Il y a de la valorisation économique et sociale, des efforts qui sont faits dans cette agriculture de proximité. Et donc on a des travaux qui le montrent bien. Alors, pas tous les circuits courts, parce que les circuits courts dans la grande distribution, j'ai une doctorante qui vient de Sarah Miyamrani qui vient de terminer sa thèse sur ce sujet, qui montre que ce circuit court-là, il a pas cette vertu d'écologisation parce que perdure cette norme zéro défaut, notamment dans les fruits et légumes, qui oblige les agriculteurs à traiter en amont. Donc tous les circuits courts se valent pas là-dessus. Mais en tout cas, sur l'environnement, il y a aussi plein de choses intéressantes, y compris pour la biodiversité, le maintien des races locales, des variétés locales, et puis sur le social, beaucoup d'enjeux, liens social, apprentissage, pédagogie, reconnaissance des métiers, de la qualité de ce qui se fait, et puis sur l'emploi, enfin, il y a plein de vertus, mais les circuits courts, là, c'est aussi notre travail à nous de pas décider à la place des gens, mais de donner un certain nombre d'informations pour. Parce que tous les circuits courts se valent pas, parce qu'il y a des opportunismes, il y a des circuits qui sont pas plus justes, ni pour le producteur, ni pour le consommateur. Il y a une clientèle captive, donc il y a maintenant des choses qui sont moins intéressantes que d'autres. Mais globalement, on a quand même des vertus qui sont intéressantes, parce que c'est surtout lié à d'autres indicateurs de richesse, comme on dit. C'est pas simplement le produit intérieur brut, c'est aussi des emplois, mais des emplois de qualité, c'est aussi du bien-être, du lien social, donc des indicateurs qu'on regarde pas d'habitude.
Et peut-être aussi une meilleure rémunération pour les agriculteurs, non ?
Bien sûr, c'est, vous avez raison de revenir là-dessus puisque c'est la base. C'est la base. Alors, oui, en circuit court, on peut bien gagner sa vie quand on est agriculteur, mais là, pas n'importe quelle condition. Faut quand même bien savoir s'organiser parce que c'est beaucoup de travail. Faut faire 3 ou 4 ou 5 métiers à la fois. D'où l'intérêt des dons collectifs d'ailleurs pour partager tout ça, pour partager le temps, pour partager les coûts. Et puis cette performance économique, elle dépend aussi des territoires. J'en parlais tout à l'heure, on n'a plus d'abattoirs dans certains départements. Ben, quand on n'a plus d'abattoirs, c'est pas forcément rentable de vendre sa viande en direct parce qu'il faut faire beaucoup de kilomètres pour la déposer, pour revenir, pour retourner la chercher découpée, pour si bien que c'est pas rentable. Donc ça dépend pas que de l'agriculteur et de ses compétences. Ça dépend en effet de son organisation de travail, mais ça dépend aussi beaucoup du territoire dans lequel il est. Et donc il y a un rôle clé des collectivités et des villes à jouer pour améliorer la performance économique de ces circuits.
Benoît Leguet, on sent par la parole de Yuna Chifolo qu'il y a différentes problématiques qui se croisent. Donc cette vertu, l'écologisation possible. On a parlé aussi de la mobilité, penser autrement les circuits de distribution. Je sais que vous êtes aussi attaché à la place du ferroviaire pour l'acheminement des denrées, parce que vous avez travaillé aussi avec l'Institut sur cette question-là. On a parlé aussi de la situation des agriculteurs. Il y a beaucoup de problématiques croisées.
Oui, complètement. En fait, toutes ces problématiques se rejoignent un petit peu. Et ce qu'on peut peut-être en dire. Alors, déjà, si vous me permettez de revenir sur un point qu'a dit Yuna pour confirmer complètement, pour signaler que je suis plus qu'en accord avec ce qu'elle a dit. C'est sur la question du transport, enfin des circuits courts. En fait, on aimerait se dire que faire des circuits courts proches, entre guillemets, ça permet vraiment de diminuer l'impact environnemental. En fait, l'essentiel de l'impact environnemental de l'agriculture, il n'est pas tellement dans le transport, il est vraiment dans la production. Et donc c'est la réduction des produits de l'élevage qui constitue de loin le premier levier. Le deuxième levier, et ça interroge les modes de distribution justement, c'est le gaspillage alimentaire. Qui a lieu pour partie dans les circuits de distribution, mais pour partie également chez les particuliers. Et puis loin derrière vient finalement la saisonnalité ou l'origine géographique d'un produit. Je parle uniquement en termes d'émissions de gaz à effet de serre. Et ça n'enlève absolument pas tout le reste, c'est-à-dire finalement tous les co-bénéfices, si je parle du point de vue du climat, à la mise en place ou au renforcement des circuits courts. Alors, si on en revient plutôt sur la question de départ, effectivement, on a plein de problématiques qui se croisent en même temps. C'est-à-dire, on a des problématiques d'alimentation, enfin plus largement de produits alimentaires. Et puis il va y avoir des problématiques de transport que l'on voit un petit peu derrière. Et tout ça, alors moi je le vois avec mon prisme qui est plutôt celui du climat. En fait, ces problématiques peuvent se rejoindre, c'est-à-dire, encore une fois, comme je le disais au tout début, un produit alimentaire, il n'arrive pas par magie dans un frigo, il faut qu'il ait été fabriqué, récolté, transporté, etc. Et donc il faut également s'assurer de la résilience des circuits logistiques. Je dis bien résilience et non pas robustesse. Le terme est un petit peu différent. En fait, il faut pouvoir s'assurer qu'on va pouvoir apporter des denrées alimentaires dans des villes, si on n'arrive pas à les produire sur place, en tout cas les apporter de façon suffisamment souple et, j'allais dire, suffisamment certaine. La vitesse dans le monde de demain ne sera peut-être plus l'élément déterminant, mais ce qu'on voudra, c'est être à peu près certain qu'on aura des denrées alimentaires qui permettront de venir dans les villes. Et donc ce que ça dessine derrière ça, c'est peut-être une nouvelle façon de réfléchir à l'aménagement du territoire, aux politiques publiques, pas vraiment en mode déterministe, voilà comment le futur sera, mais plutôt en mode, j'allais dire, non pas probabiliste, mais peut-être en mode plutôt prospectif. Finalement, comment faire en sorte que nos sociétés soient plus résilientes à un certain nombre de chocs, et comment faire en sorte que de prendre des décisions qui nous amènent à prendre des décisions pour le coup robustes, c'est-à-dire que dans un grand nombre de scénarios possibles, on arrive finalement toujours à se retrouver avec des denrées alimentaires qui arrivent, qui viennent remplir notre frigo, etc. Et puis d'autres choses qu'on a pu voir pendant la crise. Donc en termes de façon de faire des politiques publiques, ça va peut-être aussi avoir un impact sur les décideurs et sur les façons de faire. C'est prendre des décisions robustes plutôt que des décisions optimisées.
Yuna Chifolo, prendre des décisions robustes, donc ça c'est la question aussi de l'engagement des décideurs. On peut aussi penser à prendre des décisions robustes dans le monde de l'agriculture, qui n'est pas aussi un monde en phase aujourd'hui avec cette résilience et qui parfois voudrait bien évoluer, mais ne le peut pas forcément. Hein. Il y a aussi des verrous. Qu'est-ce que vous pensez de peut-être du pouvoir des circuits courts ou de cette autre façon, cette demande spécifique citoyenne que l'on voit émerger sur l'agriculture? Est-ce qu'il y a une mutation de l'agriculture française qui est envisageable? Est-ce que vous travaillez vous-même avec les syndicats agricoles, comme la FNSEA notamment?
Alors, j'avais envie justement d'ajouter au propos précédent juste l'idée d'avoir des décisions plus démocratiques. Hein, parce que des décisions plus robustes, mais aussi plus démocratiques. C'est-à-dire que l'agriculture reste finalement, alors même si les villes font beaucoup de choses à leur niveau, à leur échelle, mais les consommateurs aussi ont un certain pouvoir. On le voit comme des initiatives comme C'est qui le patron, il y a pas mal de communication aujourd'hui avec cette idée que le consommateur peut par ses achats finalement orienter les choses de telle ou telle façon. Mais ni l'une ni l'autre des réponses ne vont suffire au sens où l'agriculture reste co-gérée par l'État et par les syndicats majoritaires. Qui vont rester quand même dans un paradigme de développement agricole qui est celui d'avant, même si alors les choses sont quand même un peu en train de changer. Il y a des jeunes générations qui sont plus sensibles, hein, d'agriculteurs qui sont plus sensibles à l'alimentation locale, plus sensibles que n'étaient leurs aînés, soutenus justement par ces consommateurs, hein, mais il y a quand même beaucoup de choses à modifier. Beaucoup de choses, des règles qui sont plutôt adaptées au modèle précédent. Les aides agricoles, les aides des politiques qui se, la PAC en est la première illustration, hein, donc les aides vont plutôt donc à l'agriculture productiviste, exportatrice, et beaucoup moins, de façon très déséquilibrée, à l'agriculture locale. Donc cette résilience qui ne peut que être basée sur la complémentarité des circuits, des agricultures, on n'y est pas du tout, puisqu'on n'a pas d'équilibre encore. Donc je travaille, oui, parce que nous on reste très ouvert, et on est en tout cas à chaque fois qu'on nous propose, on est en discussion, en dialogue avec tous les syndicats, mais aussi il y a ces syndicats, mais il y a aussi toutes les forces citoyennes. Ça veut dire que ça peut pas être une réponse que par le consommateur et par le pouvoir d'achat. C'est quelque part remettre cette idée, enfin il y a une idée qui s'appelle la démocratie alimentaire, hein, donc de permettre à tous d'agir, de prendre des décisions par rapport à l'alimentation, à l'agriculture, qui sont finalement des biens communs, des biens qui nous appartiennent à tous. Et donc ça veut dire, pourquoi pas, permettre aux citoyens de voter pour les élus des chambres d'agriculture, qui pourraient devenir des chambres de l'agriculture et de l'alimentation, pour réorienter et les paysages alimentaires et les paysages agricoles vers une autre agriculture. Ça veut dire remettre de la démocratie là où il n'y en a plus ou pas, et ne pas penser simplement la réorientation des choses par le pouvoir d'achat et par le consommateur, mais bien par le citoyen.
Benoît Le Guay, sur cette question-là, parce qu'on sent aussi que cette tendance d'aller vers les circuits courts fait évoluer l'alimentation, hein, qui concerne souvent dans les circuits de proximité, plus largement les fruits, les légumes, que les protéines animales, notamment. Quelle est votre, peut-être, position par rapport à ça, et puis à cette mutation possible de l'agriculture française, en tout cas par rapport à cette question aussi de résilience?
Alors je vais aller un petit peu dans le même sens. Alors effectivement, j'avais pas pensé à la question de la démocratie en ces termes, mais ce qui est certain, c'est que à un moment il va falloir s'appuyer sur les agriculteurs, alors ceux qu'on appelle parfois les exploitants agricoles. J'avoue que je préfère le terme agriculteur, que ce soit par les syndicats ou les chambres d'agriculture. C'est finalement deux façons de les toucher et de les aider, en tout cas à changer de modèle. Ce qu'on peut dire, alors, Changer de modèle, c'est pas forcément simple. Néanmoins, l'agriculture française a montré qu'elle arrivait à, enfin, qu'elle évolue. On ne fait pas tout à fait la même agriculture aujourd'hui qu'on faisait il y a 20 ans, il y a 50 ans, et a fortiori il y a une centaine d'années. Et pour atteindre, disons, à la fois une résilience au changement climatique et encore une fois atteindre la neutralité carbone, il va falloir de toute façon évoluer. C'est-à-dire certainement moins de produits d'origine liés à l'élevage. Ça veut dire aussi une maîtrise peut-être des protéines que l'on fournit à l'élevage. Et puis c'est une agriculture qui sera peut-être autre. Je dis pas moins ou plus d'agriculture, mais en tout cas c'est une agriculture qui manifestement ne sera pas la même. Il va falloir, réduire la part de l'élevage, c'est certain. J'allais dire pour nourrir la population, dans ce cas il va falloir certainement augmenter. J'enfonce des portes ouvertes, hein, mais il va falloir augmenter les protéines d'origine végétale, ce qui veut dire un changement d'alimentation. Donc le consommateur va évidemment être un maillon de la chaîne, mais ça ne va pas simplement être le consommateur. Les politiques publiques vont également façonner. La commande publique, par exemple, peut pas mal façonner tout cet écosystème, puisque la commande publique est, j'allais dire, au-delà de la commande publique, la restauration collective peut également pas mal façonner cet écosystème, puisque nous prenons quand même une bonne partie de nos repas également hors du domicile. Et là-dessus, nous ne choisissons pas forcément, si je parle du point de vue du consommateur, nous ne choisissons pas forcément toujours ce que nous mangeons. Donc il va falloir, c'est l'ensemble de cet écosystème qu'il va falloir faire bouger. C'est pas simple, peut-être, mais en tout cas l'agriculture dans le passé a beaucoup bougé, et là, encore une fois, on a de bonnes raisons de bouger. Et je mets un S à raison, à la fois climat, sécurité alimentaire, etc., etc.
Donc moins mais mieux, mais en assurant aussi à nos agriculteurs une rémunération correcte pour ce travail et pour cet avenir. Concrètement, Benoît Le Guay, à ce stade de l'émission, on va se tourner vers votre choix musical. Vous avez choisi de nous faire écouter Dominique A, Rendez-nous la lumière. Est-ce qu'il y a une raison particulière à ce choix ?
Oui, en deux mots, bon, au-delà de la beauté de la musique, dans cette chanson, Dominique A nous rappelle finalement, enfin nous demande d'ouvrir les yeux. Rendez-nous la lumière, finalement, c'est ouvrons les yeux et regardons notre environnement, c'est-à-dire ce qui nous environne. En fait, il rappelle une évidence, c'est que sans l'environnement, on a du mal à vivre. Et donc c'est quelque chose qui, quelque part, est non négociable. Ça fait partie des choses. Si on le détruit, il n'y a pas de plan B. Alors il le dit d'une façon un petit peu différente, parce que l'époque n'était pas tout à fait la même, mais c'est ça. Et quand on écoute les premières paroles, j'ai trouvé que c'était très adapté, notamment à une émission qui pourrait parler de formes urbaines, etc., puisqu'on parle de destruction des paysages. Et de destruction des paysages qui sont quand même essentiellement des terres agricoles. Les villes se sont quand même pas mal établies sur des bonnes terres agricoles. Quand on les étend, malheureusement, ça détruit des bonnes terres agricoles.
On voit des autoroutes, des hangars, des marchés, de grandes enseignes rouges et des parkings bondés. On voit des paysages qui ne ressemblent à rien, qui se ressemblent tous. Et qui n'ont pas de fin. Rendez-nous la lumière, rendez-nous la beauté. Le monde était si beau et nous l'avons gâché. Rendez-nous la lumière, rendez-nous la beauté. Si le monde était beau, nous l'avons gâché. On voit de plein rayon de bêtes congelées, leur peur prête à mâcher par nos dents vermillons. On voit l'écriture blanche des années empilées. Tous les jours c'est dimanche, tous les jours c'est prier. Rendez-nous la lumière, rendez-nous la beauté. Le monde était si beau et nous l'avons gâché. Rendez-nous la lumière, rendez-nous la beauté. Si le monde était beau, nous l'avons caché.
De Dominique A, rendez-nous la lumière. C'est le choix de Benoît Leguet aujourd'hui dans De cause à effet. C'est la suite de notre émission en direct sur France Culture consacrée aujourd'hui aux villes et territoires engagés dans un projet global de résilience et d'autosuffisance, notamment en matière d'alimentation. En a-t-on les moyens dans une économie mondialisée? Quels en seraient les acteurs et les leviers principaux? Réponse avec nos deux invités, Yuna Chifolo, ingénieure agronome et sociologue, directrice de recherche en sociologie économique à l'INRAE. Elle est également co-animatrice du réseau national d'experts sur l'alimentation locale et auteure du livre « Les circuits courts alimentaires », un livre paru chez ERES. Et Benoît Leguet, directeur général de l'Institut de l'économie pour le climat et membre du Haut Conseil pour le climat. Et je vous rappelle que c'est un sujet qui prend place dans le cadre de la coalition hashtag Sauver le présent qui rassemble France Culture, Le Parisien aujourd'hui en France, Ouzbek Erika et Combini News, et que toutes les contributions sont à découvrir sur notre site franceculture.fr à la page de l'émission. Mais tout de suite, place à l'histoire du jour choisie par notre partenaire Le Monde. Bonjour Rémi Barou.
Bonjour.
Vous êtes journaliste des pages planète du journal Le Monde et vous avez choisi de nous plonger aujourd'hui dans le monde des viticulteurs grâce à votre article que vous signez avec Laure Gasparetto et Ophélie Neyman et intitulé « Le vignoble français à l'épreuve de la pandémie ». Alors, a-t-on consommé plus d'alcool comme les images d'apéro de confinés pourraient le laisser entendre ?
Ben, les images sont vraiment trompeuses, parce qu'on en a vu des images d'apéro Skype, des retrouvailles amicales, de jeunes se pochetronnant autour d'une bouteille sur les bords du canal Saint-Martin ou dans les parcs à peine réouverts. Mais en fait, selon une étude de Santé publique France, eh bien, seulement 11% des personnes interrogées ont déclaré boire plus pendant le confinement, contre 24% moins. Mais le problème n'est pas tant dans la consommation majorée ou minorée, mais surtout dans l'effondrement des ventes de vin et de champagne et d'alcool. Beaucoup de domaines viticoles sont en péril, puisqu'on parle de 50 voire 60% en moins pour le champagne. Alors en cause, évidemment, les fermetures pendant 2 mois et demi, 3 mois des restaurants, des bars, des nombreux cavistes au début, l'arrêt des exportations totales en direction de marchés qui étaient plutôt porteurs, comme la Chine, les États-Unis. Et on sait que beaucoup de viticulteurs exportent leur vin, que parfois le réseau des hôtels, des cafés et des restaurants représente 50% de leurs ventes. Il y a, à ça, on peut encore ajouter l'arrêt complet de toutes les cérémonies familiales, des mariages, les événements sportifs, les événements culturels. Bref, aucun endroit, plus rien pour vendre et consommer du vin. Et on peut encore ajouter à ça l'arrêt du total du tourisme, de l'onotourisme, des visites de domaines, de ventes au caveau. Alors on comprend un peu le désarroi de la filière qui se disent on va pas survivre à cette année 2020. Et ils attendent évidemment avec impatience la réouverture des cafés qui est programmée maintenant, on le sait, au 2 juin. Et surtout la reprise de la saison touristique.
Oui, on imagine. En tout cas, Rémi, est-ce qu'il y a quand même quelques éléments positifs malgré tout ?
Ah bah déjà, l'été qui arrive, le fait de pouvoir se retrouver avec les amis, avec la famille, à plus de 10 éventuellement, et à pouvoir ouvrir une bouteille et remanger quelques produits frais et bien cuisinés, c'est quand même, le vin et le champagne sont des moments de convivialité. Peut-être certains boivent seuls, mais enfin, ils sont quand même extrêmement rares. On ouvre une bouteille quand on est content de voir quelqu'un. Et la crise sanitaire, le confinement, a aussi obligé les vignerons à travailler un peu différemment. D'abord la vigne, parce que le végétal a continué à pousser. Lui, il n'a pas été confiné. Il a fait beau, la vigne pousse, tant mieux. Et les vignerons ont travaillé leur vignoble. Après, on ne sait pas comment vont se dérouler les prochaines vendanges, s'il y aura encore des mesures de confinement et des mesures de distanciation physique, ça rendra compliquer les choses. Mais les vignerons s'adaptent. Et surtout, la reprise donc de cette saison estivale et le fait que les vignerons ont fait un peu comme vos invités le disaient dans la partie précédente de l'émission. Ils ont misé sur les circuits courts, ils ont retravaillé les fichiers de gens qui se venaient de les voir directement au caveau. Les urbains ont redécouvert des domaines viticoles à proximité, dans les 100 km autour de leur ville. Et il y a eu un gros travail qui a été fait par les vignerons sur cette capacité qu'ils auraient à travailler la clientèle autour d'eux, a proposé. Alors ils ont fait des offres, évidemment, ils ont souvent un peu taillé dans leur marge et dans les prix, mais surtout ils ont sollicité une clientèle qui n'était pas toujours leur priorité, puisqu'ils d'abord ils vendaient en grande distribution à l'export et évidemment dans les restaurants.
Merci Rémi Barou. Vous restez avec nous. On va se tourner vers nos invités, peut-être pour une question ou une réaction supplémentaire. En tout cas, je précise que dans votre article, vous donnez quelques informations aussi chiffrées en rappelant que 750 000 hectares de vignes en France sont dédiés donc à cette viticulture, un secteur qui fait travailler 500 000 personnes et que c'est le deuxième contributeur après l'aéronautique à la balance commercial. Une réaction peut-être de votre côté, Yuna Chifolo, puisqu'on parlait des circuits courts qui ont été activés sur ce terrain-là.
Oui, alors à la fois je confirme ce qui vient d'être dit, ça a quand même été plus difficile dans certaines filières que d'autres, hein, pour le vin, mais aussi un certain nombre de produits festifs ou typiques, comme le cidre, comme les cailles, enfin des produits qu'on ne consomme pas forcément beaucoup. Là, les producteurs, même en circuit court, hein, ça a été compliqué pour eux. Mais là où c'est intéressant, c'est en effet la réactivation de ces circuits courts, vente directe, mais aussi avec les... Je sais que des vignerons ont retravaillé avec des cavistes aussi, des commerces de proximité, parce que la crise, c'est aussi ça. Ça a été aussi redécouvrir le boucher à côté de chez soi, le petit caviste chez lequel on n'allait pas ou peu, on ne prenait pas le temps. Il y a aussi tout ce mouvement-là qui est important. Et les circuits courts, c'est aussi ça, je le disais tout à l'heure, mais retisser des liens entre les producteurs et tous ces commerces de proximité. Certains artisans le défendent aujourd'hui. Hein. Ça n'a pas toujours été simple, mais ils le défendent. Il est intéressant de les soutenir parce que là, on a vraiment un gros potentiel de développement. Et la crise, elle a aussi éclairé cette facette-là.
Benoît Leguet, un élément à apporter ou pourquoi pas une question à poser aussi à Rémi Barou?
Non, enfin, j'ai pas forcément beaucoup d'éléments à apporter. Oui, peut-être une question pour Rémi Barou. Est-ce que en termes géographiques, enfin, est-ce que les différents, si vous avez la réponse, est-ce que les différentes zones géographiques viticoles ont été affectées différemment? Qu'est-ce qu'on peut dire en termes de segmentation entre guillemets? Enfin, qu'est-ce qui a le mieux résisté et le moins bien résisté dans le vin?
Rémi Barou.
Alors la grande perdante, c'est la Champagne, parce que s'il y a bien une boisson qui est associée, on va dire, à la convivialité, à la fête, c'est quand même le champagne. Et je crois que pas grand monde n'a eu envie en février, mars, avril de faire la fête. Déjà, c'était impossible, mais même l'envie n'y était pas. Il n'y a plus d'événements sportifs, plus de victoires à célébrer, aucun mariage pour faire sauter un bouchon. Donc la Champagne est vraiment, vraiment la première victime. Mais toutes les régions ont souffert de manière quasi équivalente. Même la Provence, qui a basé quand même une partie de sa force de frappe sur le rosé, est bien embêtée parce qu'il leur reste des stocks de rosé. Et le rosé est souvent dit à tort comme un vin qu'il faut boire dans l'année. Et c'est le vin de l'été. Et là, on va découvrir des choses un peu nouvelles, c'est-à-dire des rosés qui vont se garder un an, deux ans et qu'on trouvera excellent, même si il est marqué 2018 ou 2019 dans un an. Donc il y a ça. Alors ce qui a aussi moins souffert, c'est les vins de proximité. Disons que les appellations contrôlées qui sont plus chères ont plus souffert, mais des vins à 6 euros, 7 euros, par l'accessibilité financière tout simplement, ont mieux résisté. Ce que je voulais dire aussi, et j'ai oublié, c'est important parce que ça a été dit tout à l'heure pour les agriculteurs, mais le viticulteur, il s'adapte. Il sait s'adapter, il est en train de s'adapter aux questions climatiques en travaillant sur les cépages, en travaillant sur les maturations, en travaillant sur les techniques de vinification et même sur les techniques d'élevage. Et je pense que, en tout cas c'est ce qu'ils disent hein, majoritairement, c'est dur pour eux, mais ils vont faire face et ils vont trouver des méthodes pour rebondir.
Merci Rémi Barou et je renvoie bien sûr nos auditeurs à votre article hein, où vous détaillez tout cela très précisément. Article intitulé « Le vignoble français à l'épreuve de la pandémie » à lire sur le site dumonde.fr et sur celui de l'émission. Merci à vous.
France Culture, de cause à effet, le magazine de l'environnement. Aurélie Luneau.
Sur cette parcelle de colza, Gaëtan Bouchot ne peut que constater les dégâts.
Ça, c'est complètement mort. C'est complètement mort. Là, il n'y aura absolument rien du tout. Impossible de récolter ça. Ça ne produira pas.
Forte chaleur, vent d'est et pas une goutte d'eau depuis mi-mars. La météo n'a laissé aucune chance non plus à ces plants de blé.
Il n'y a absolument rien à sauver. Même s'il pleuvait demain, on ne rattraperait pas le rendement perdu. Aujourd'hui, c'est foutu.
Pour le bétail, la sécheresse est aussi un problème. Ces dernières semaines, cet éleveur a déjà emmené ses vaches dans plusieurs pâtures, mais l'herbe trop rase commence à manquer.
L'herbe ne repousse pas. Donc moi, mes vaches vont avoir passé tout partout. Donc elles sont nourries à l'eau. J'ai encore 2-3 jours et je reprends la pleine ration d'hiver.
Dans le Charolais, pas de pluie non plus depuis un mois. Vu l'état des sols, cet agriculteur se demande même s'il va semer.
Dans une parcelle comme ça, on devrait être en train de semer le maïs. On a été échaudé l'an dernier, on n'a pas récolté justement à cause du sec. Aujourd'hui, quand on voit des conditions de démarrage comme ça, on se pose la question s'il faut faire ou pas faire.
Assoiffé par 40 jours sans pluie, le Doubs disparaît peu à peu dans les roches. 400 heures de soleil depuis le 11 mars et des sols qui manquent d'eau. Le seuil d'alerte a été franchi.
Ce reportage a été diffusé sur France 3 le 30 avril dernier, il y a un mois. Benoît Legué, l'eau, une autre problématique pour les territoires justement qui dans ce contexte de réchauffement climatique vont être soumis de plus en plus aux aléas climatiques comme effectivement ce manque d'eau. Et là, il faudra aussi trouver des solutions dans cette façon de reconnecter les territoires.
Oui, tout à fait. Alors c'est là où on va également retrouver des contrats entre les territoires. Alors, je vais rappeler quelques évidences, j'allais dire physiques, mais ça fait toujours du bien de les rappeler. Ça a été rappelé dans le reportage. Pour faire pousser des végétaux, en général, il faut de l'eau. Pour nourrir des animaux, il faut des végétaux et de l'eau. Et puis, demain, dans un climat qui s'annonce peut-être plus chaud, et quand je dis peut-être, vous aurez compris que c'est un euphémisme, qui sera certainement plus chaud, même si on fait des efforts de réduction d'émissions, il va falloir peut-être revégétaliser les villes et utiliser de l'eau afin d'aider à contrer les effets du réchauffement climatique et notamment les effets de type îlot de chaleur urbain. Donc tout ça, ça fait quand même beaucoup d'eau qu'il va falloir utiliser peut-être un petit peu plus intelligemment dans un contexte par ailleurs avec un réchauffement climatique sur lequel la disponibilité en eau pourrait également voir sa variabilité s'accroître. Donc là, il va falloir être un petit peu plus malin, on va dire, trouver des nouvelles relations entre territoires. Ce reportage dans le Charolais était remarquable, parce que c'est là aussi où on voit les limites de l'autarcie. Encore une fois, il faut faire attention à pas passer de Caribe dans Scylla. Se dire, voilà, on va tout autarciser, entre guillemets, si vous me permettez ce néologisme, et on s'en portera bien mieux, on sera bien plus résilient. Ben, en fait, quand on a un aléa climatique qui se matérialise dans une région, on est bien content, dans une région d'approvisionnement pour une ville, on est bien content de pouvoir s'approvisionner sur d'autres régions. Ça n'enlève pas le problème sur la première région, le problème des agriculteurs dont il faut maintenir le niveau de vie, etc. Mais en tout cas, ça résout le problème, ou en tout cas, ça contribue à résoudre le problème d'alimentation de la ville. Donc voilà, autour de l'eau, de gros enjeux en perspective au cours des prochaines années. En France, je parle, et bien évidemment, la France n'est pas le seul pays concerné par ça.
Et quand vous dites trouver des solutions, Benoît Legué, est-ce qu'aujourd'hui vous en avez identifié certaines face à cette problématique de l'eau qui est vraiment le danger de demain?
Alors je sors peut-être un peu de mon domaine d'expertise, donc je préférais rester, disons peut-être un petit peu en retrait. Mais oui, il y a des choses à faire. Enfin, encore une fois, gérer correctement les végétaux ou les besoins en eau à la fois dans l'agriculture et dans les villes, ça sera quelque chose qu'il faudra faire et sur lequel il faut sensibiliser l'ensemble de l'écosystème. Alors, si on parle des villes, évidemment, les élus peuvent être en première ligne sur ce type de sujet et plus largement dans les territoires. Il va falloir apprendre à gérer l'eau. J'ai noté d'ailleurs dans le reportage, on parlait évidemment du Doubs. C'est vrai qu'on n'associe pas forcément le Doubs à la région du Doubs à une région sèche, et pourtant, effectivement, depuis quelques années, il y a des problèmes, d'alimentation en eau et de sécheresse qui posent des gros problèmes de gestion.
Yuna Chifolo, sur cette question-là, on imagine bien que la problématique de l'eau est au cœur de cette problématique aussi de relocalisation, de reconnexion des territoires, mais que ça va même au-delà. Vous êtes chercheur à l'INRAE et l'INRAE travaille aussi sur les plantes de demain, moins demandeuses d'eau notamment.
Oui, j'allais en effet proposer cette autre piste. L'INRAE travaille beaucoup là-dessus, mais ça va aussi avec une reconnexion avec son territoire, parce que ça veut dire aussi reprivilégier des variétés locales qui sont peuvent être plus adaptées au terroir. C'est tout l'enjeu de ce qu'on a. On a finalement développé les mêmes variétés partout dans le monde, quel que soit le contexte. On les a sortis de leur contexte, alors que certains travaillent, et l'INRAE travaille aussi en ce sens, vont vers une sélection participative de variétés locales qui s'adaptent, qui se sont adaptées elles aussi avec le changement de contexte. C'est aussi moins de maïs, hein. Le maïs consomme beaucoup d'eau et finalement c'est remettre des choses, des plantes, des variétés locales. Donc il y a aussi une autre piste, c'est vraiment inventer, y compris par la génomique, en y restant dans des techniques de fabrication de plantes qui respectent la nature, là aussi, mais des variétés plus résistantes à la sécheresse, en effet. Mais c'est aussi retrouver des variétés anciennes qui sont plus adaptées et qui ont su s'évoluer également avec la transformation des terroirs et la transformation du climat.
Donc là encore, on est aussi sur la nécessité d'accompagner les exploitants vers ces tendances-là.
Les accompagner, sachant que souvent la recherche a du retard. Les agriculteurs, ils savent très bien faire. Ils sont très compétents et ce sont des agriculteurs justement qui étaient venus chercher l'INRAE plutôt en se disant mais nous on a conservé des variétés, ces variétés capables de s'adapter aux changements environnementaux. Alors on accompagne leur organisation, le fait que ce soit aussi partagé avec davantage le changement d'échelle comme on dit, mais les agriculteurs sont compétents, ils ont des ressources. Il faut juste savoir les écouter.
Alors, dans la dernière minute et demie qu'il nous reste, peut-être un regard ou un avis de l'un et de l'autre. On a donc besoin d'une coopération entre États, acteurs économiques, villes et citoyens. Est-ce qu'il y a d'autres ambassadeurs, peut-être, qui pourraient rentrer dans cette logistique, dans cette problématique de reterritorialisation, résilience, autosuffisance, Younes Chifolo?
La recherche, notamment, qui n'a pas forcément été très présente sur ces sujets, mais les choses sont en train de changer. On a tous un rôle à jouer. Mais il y a l'enjeu de coordination aussi, parce qu'on l'a vu dans la crise. Les collectivités ont aussi voulu agir. Mais parfois de façon désordonnée. Chacun a fait notamment une plateforme, une carte pour permettre aux uns aux autres d'identifier les producteurs, les fermes. Mais ça pouvait créer plus de temps de travail pour des agriculteurs qui étaient obligés de se signaler dans toutes ces plateformes. Donc, on a tous un rôle à jouer, mais faut se coordonner. Donc, il y a vraiment besoin de cette coopération, d'une approche systémique, de dépasser les logiques des services et d'être vraiment en transversal. Donc, ça, c'est la prochaine carte à jouer.
Merci à tous les deux. Merci, Benoît Le Guay.
Merci.
Merci Younes Chifolo. Et je rappelle les informations vous concernant, Younes Chifolo, le titre de votre livre, Les circuits courts alimentaires entre marché et innovation sociale. C'est un livre paru chez RS. Benoît Le Guay, des liens seront à disposition pour nos auditeurs sur notre site. Hein, des liens vers les différentes études de votre Institut de l'économie pour le climat, donc à disposition sur franceculture.fr, rubrique de cause à effet. Et bien sûr, l'émission peut-être écouté, téléchargé. Vous pouvez aussi nous suivre sur Twitter et sur notre page Facebook.